Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 13 à 23. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie sur ce fondement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
Merci, Paul, pour cette lecture. Quand j'ai quitté Fontainebleau, ma ville natale, je suis Bellefontaine, à l'âge de 14 ans et que je suis arrivé à Bruxelles, en Belgique, j'ai été étonné de voir qu'à l'Athénée, c'est-à-dire au collège là-bas, j'étais en troisième. Il y avait encore des remises de prix. Et donc celui qui avait le prix de qui était premier en mathématiques recevait le premier prix de mathématiques, il recevait un livre de mathématiques. Celui qui avait le premier prix de physique, il recevait un livre de physique. Autant vous dire qu'on se battait pour avoir ces premiers prix et les livres qui vont avec. Moi, j'ai reçu le premier prix de religion protestante. Parce qu'en Belgique, il y a des cours de religion protestante à l'Athénée, au lycée et au collège. Et j'ai reçu le premier prix de religion protestante. On était deux dans la classe. Et je pense que la deuxième, c'était une Suédoise, une luthérienne suédoise. Elle a reçu le premier prix ex aequo avec moi. Les premiers prix, toute une époque, hein, un peu révolue, je crois. Tout un système pédagogique qui a fait son temps. Quand Paul écrit à l'église qui est à Colosse, Colosse c'est une ville, dans les années 60 du 1er siècle, alors qu'il est en prison à Rome, et nous faisons une série sur cette lettre de Paul aux Colossiens, ce qui est important pour Paul, ce n'est pas que l'église de Colosse joue en première division du championnat des églises, ni même qu'elle reçoive le premier prix de la foi, de l'amour et des progrès, comme on en a parlé il y a 2-3 prédications. Ce qui intéresse Paul, c'est que le chrétien de Colosse et d'ailleurs ne soit pas le premier de sa classe, mais qu'il puisse être attaché à une personne particulière, Jésus-Christ. Ça, c'est le plus important pour Paul, que chaque chrétien puisse mettre Jésus à la première place dans sa vie. Et c'est pour ça qu'après avoir parlé des bonnes nouvelles de l'Église et communiqué aussi sur les sujets de prière de l'Église, Paul part de ce qu'on pourrait appeler un hymne à Christ, que Paul nous a lu, enfin, que l'autre Paul, notre Paul, a lu tout à l'heure. Je n'avais pas pensé que c'était les mêmes. Un hymne à Christ, un poème à Jésus, et vous l'avez entendu. Et je voudrais dire, si vous venez pour la première fois aujourd'hui, ou depuis peu, que vous venez depuis peu, il est possible que ce texte que nous avons lu vous ait semblé un petit peu ardu, un petit peu difficile quand même, et surtout un peu loin de nos préoccupations quotidiennes. Je voudrais dire, ne vous inquiétez pas, nous aussi, pour nous aussi, ce texte paraît un peu difficile et un peu loin de nos préoccupations. Et donc, et on est un peu dépassé par ces paroles. Elles sont fortes, elles sont grandes plutôt. Elles sont profondes. Et on ne va pas essayer de tout expliquer, mais je voudrais faire ressortir quelques idées fortes pour nous, pour que nous puissions appréhender cette parole de la Bible et mettre en avant un mot qui revient trois fois. C'est le mot « premier ». Au verset 15, « Ce fils, il est l'image que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. » Au verset 18, « Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. » Et il continue, « Afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. » Trois fois le mot « premier », c'est pour ça que j'ai fait une introduction sur le premier de la classe, hein, le premier prix. Premier. Et si Paul insiste dans son hymne à Jésus-Christ sur le mot « premier », c'est parce que certainement dans l'église de Colosse ou en périphérie de l'église de Colosse, malgré les bonnes nouvelles qu'on a de cette église et dont il parle au début du chapitre premier, il y a des contestataires qui contestent l'importance, enfin pas l'importance de Jésus, mais qui contesteraient sa première place, sa primauté. C'est dans le mouvement gnostique, alors le gnosticisme, c'est un mouvement philosophico-religieux qui apparaît au 1er, 2e, 3e siècle, après Jésus-Christ, c'est un mouvement de la connaissance, et c'est réservé un peu aux initiés, gnostiques, ça vient de gnosis, connaissance. Et on croyait qu'il y avait plusieurs émanations, ça c'est un terme technique dans le gnosticisme, émanations ou éons, ou force, ou pouvoir, et qu'il y avait même une hiérarchie sur 7 étages, et que Jésus était, je ne sais pas à quel étage, mais parmi ces autres émanations, et qu'il avait donc une importance tout à fait relative. On contestait, à l'époque, la primauté ou la priorité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les choses ont en fait assez peu changé. Personne ne conteste l'importance de Jésus-Christ de manière littéraire ou dans notre société judéo-chrétienne. Mais on va dire Platon aussi est important, Socrate est important, Freud est important, Jean-Paul Sartre est important, Michel Onfray est important. Et les Kardashians aussi sont importants, et Mbappé est important, enfin bref. Dans la hiérarchie, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et au siècle dernier, je parle du 20e, il y a eu un dossier dans l'Express qui parlait du dépassement de soi, et on pouvait y lire « Le Jésus chrétien pour les amateurs du dépassement de soi n'est plus qu'une des voies possibles en concurrence avec la plongée en apnée, Bouddha, ou le nouvel âge. » Moi, c'est la plongée en apnée qui m'a sidéré quand même. Jésus serait aujourd'hui en concurrence avec la plongée en apnée. Alors, ça fait un peu mal, mais c'est quand même le cas. Hein. Jésus ne serait qu'une des voies possibles pour le dépassement de soi. Et donc, Paul, inspiré par l'Esprit, nous le croyons, que la Bible a été écrite par des personnes qui étaient inspirées par l'Esprit, nous redit et nous rappelle que Jésus n'est pas un personnage important parmi les autres. Il écrit à Colosse et à Cannes pour dire que Jésus est premier et qu'il est premier en tout. Il rafle tous les premiers prix. Il est d'abord premier en création. Il est le premier-né. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Et on peut être surpris par l'expression « premier-né » pour Jésus, mais il faut savoir que Paul, quand il utilise l'expression « premier-né », il utilise une expression de l'Ancien Testament, qui ne veut pas dire que le premier-né soit le fils aîné d'une famille nombreuse ou le grand frère ou le premier créé, non. Dans le langage de l'Ancien Testament, le premier-né est une expression qui désigne le rang, l'honneur, l'élévation. Psaume 89, verset 28, qui est un psaume messianique. « Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc, premier-né, ça veut dire le plus élevé. un terme de royauté, de primauté. Et Paul, donc, quand il dit que Jésus est le premier-né de la création, nous dit que Jésus est le plus élevé, est élevé au-dessus de la création, il est au-dessus de toutes les créatures, et la suite du cantique nous dit bien que Jésus n'est pas créé ou premier, le premier né d'une grande famille. Il nous dit « car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Il n'est donc pas un être créé, mais créateur. « Par lui, pour lui, tout a été créé. » Sauf lui, Jésus-Christ n'a pas été créé, il est lui-même créateur. Et quand on parle de Jésus-Christ présent à la création et créateur lui-même, on se pose la question de son existence. Et on doit conclure qu'il était là, à la création, avant sa naissance à Bethléem. On parle de la préexistence de Jésus, et on commence à avoir le tournis. Oh, hop, 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 hop. Moi, je pensais que Jésus, il était né le 25 décembre, plus ou moins, de l'an zéro, plus ou moins aussi. Difficile à imaginer, mais peu importe jusqu'où peut aller notre imagination, nous ne pourrons jamais atteindre le point où nous pourrons dire « il fut un temps où il n'était pas ». Non. Jésus, Christ, a toujours été. Il est là depuis toujours et pour toujours, il sera là. Jésus lui-même va dire à des pharisiens complètement sidérés cette phrase extraordinaire. Il va leur dire à un moment, c'est dans l'évangile de Jean, « avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Alors on a un peu de mal avec la concordance des temps, hein. « Avant qu'Abraham ne fût », pas c'est simple, « je suis présent ». Mais c'est fait exprès, Jésus dit donc qu'il est avant toute chose et qu'il est donc Dieu, et il en a pleinement conscience, Jésus, en disant cela. Il se révèle comme étant Dieu lui-même, il affirme son existence éternelle, rien que ça. Et on en parlait à Alpha ce jeudi, parce qu'à Alpha, au parcours Alpha, on parlait de qui est Jésus, et on a parlé des prétentions de Jésus. Et elles sont extraordinaires, ces prétentions, et la plus grande de ces prétentions, et la centrale, c'est qu'il était Dieu, créateur, et qu'il était là, à la création. Et il faut tenir compte de ces prétentions, on a parlé jeudi soir. Et C.S. Lewis, cet auteur anglo-saxon, que le monde anglo-saxon connaît bien, et nous un petit peu, le disait très bien, on ne peut pas se borner, quand on parle de Jésus, à dire pompeusement qu'il était un type formidable, ou qu'il était débordant d'amour. Jésus lui-même, par ses prétentions, ne nous donne pas cette alternative. On ne peut pas dire simplement qu'il était un homme de bien, d'amour, de foi, tout ce qu'on veut. Il avait des prétentions et il prétendait être Dieu, il prétend être de toute éternité. Et devant de telles prétentions, on ne peut pas prendre la tangente ou la rocade ou le périphérique pour contourner le problème, il faut prendre la pénétrante, comme vous dites ici, hein, dans le coin, pour rentrer de plein pied dans un positionnement par rapport à Jésus et ses prétentions, à être Dieu et à être là de toute éternité. Qu'est-ce que je fais avec cet homme qui a dit « avant qu'Abraham ne fût, je suis » That is the question. Alors c'est vrai, toutes ces affirmations hein, de préexistence et ce cantique à Christ nous laissent un peu chaos. Mais je crois qu'avec le vertige, il y a aussi, en tout cas pour moi, et je suis persuadé pour plusieurs d'entre vous, il y a aussi l'émerveillement. Émerveillement comme on peut l'être sous un ciel étoilé, pendant un bivouac en montagne, disons sur le mont Viso ou l'Argentera. Une impression de grandeur ou de transcendance, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Jésus nous dépasse. Et j'aime dire, moi, que Jésus est cosmique. Non pas, même si ça fait un petit peu secte du temple solaire, cosmique, c'est pas dans ce sens-là, mais cosmique dans le sens où il règne sur le cosmos, c'est-à-dire le monde, sur la création, et il est le seul roi du monde, il était élevé au-dessus des cieux, et toute l'assemblée crie « Alléluia !» Vous n'êtes pas obligé de crier Alléluia, mais...
Je pense que cet émerveillement change notre façon de vivre et d'entrer en relation avec Jésus. Christ premier en création. J'étais dans un mariage dans la région parisienne il y a 20 ans et il y avait une dame, une grand-mère avec un petit garçon de 6-7 ans qui, et le petit garçon, comme dans toutes les églises, même pour les mariages, trouvait le temps long et il remuait, il parlait, il chahutait et sa grand-mère lui a dit « Maintenant tu te tais, on va prier le petit Jésus. » Et ça n'a fait aucun effet. Moi, j'étais derrière, j'avais envie de dire, « Madame, vous auriez été plus efficace en disant, « Maintenant, tu te tais parce qu'on va prier le roi des rois !» Mais ouais, c'est pas le petit Jésus, c'est le Jésus cosmique vers lequel nous allons. Et ce roi du monde impose le respect, non pas un respect où on se tient à distance respectueuse, mais ce respect où on a confiance que ce Jésus, roi du monde, tiendra ses promesses dans le temps, ou qu'il sera après comme il a été avant, et que je peux mettre ma confiance dans ce Jésus cosmique pour ma vie présente, mais aussi pour l'éternité. Jésus premier, Jésus-Christ premier en création. Et puis, il y a un deuxième point, et vous l'avez entendu, il y a une autre fois où il est question de premier-né. Il est premier en réconciliation, premier en rédemption ou en résurrection. Il est le premier-né de tous ceux qui sont morts. Là aussi, l'expression premier-né ne doit pas trop nous troubler. Il s'agit encore une fois de l'élévation. Il est élevé en résurrection. Sa résurrection donne la vie comme personne avant lui et personne après lui. Sa résurrection signe la victoire totale sur la mort et donne la vie. Et dans un autre texte, on parle de Jésus comme étant les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, les premiers résultats de la récolte de ceux qui sont morts. Le premier ressuscité d'une grande série de ressuscités, de gens qui ressusciteront parce qu'ils ont placé leur confiance en lui, le prince de la vie qui nous réconcilie avec le Dieu de la vie. Premier en réconciliation, premier en résurrection, premier en rédemption, c'est-à-dire en salut. Premier en réconciliation, je l'ai dit, et en résurrection, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et le texte parle plusieurs fois de cette réconciliation. C'est la base de la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile de la réconciliation, et celle-ci est à l'image de Jésus, elle est cosmique. L'univers tout entier, dit le texte, et ça inclut la création qui va être réconciliée avec Dieu, et aussi, last but not least, le dernier mais pas des moindres, la réconciliation aussi pour moi et pour toi. Et c'est très fort parce que l'initiative vient de Dieu alors que nous étions des fins de droit, des auto-exclus, que nous étions auto-exclus de la présence de Dieu, il s'est donné lui-même pour nous. C'est ce que dit le texte de Colossiens dans cette hymne à Christ. Et ça, c'est du salut, ça. C'est pas du sauvetage à la sauvette, c'est de la rédemption totale, cosmique, de la réconciliation universelle. Et pour toi et pour moi. C'est autre chose que le dépassement de soi par la plongée en apnée. Que pratiquait Jacques Mayol dans le grand film sur lui des années 90, Le Grand Bleu, qui a beaucoup vieilli. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Pouh, c'est vieux. Mais qui a marqué notre époque, des baby-boomers, peut-être pas les générations suivantes. Mais j'ai appris par la suite que Jacques Mayol, vous savez, cet homme dauphin, dans la réalité, dans le quotidien, était un homme tout à fait imbu de sa personne. Son frère en parlait lors d'une interview et il n'en disait vraiment pas que du bien. Si mon frère, bon, j'ai pas eu de frère, mais si ma sœur avait parlé de moi comme ça, je lui aurais téléphoné après. Mais vraiment, il a cassé son frère parce qu'il était pas sympathique du tout, voire exécrable dans la vie. Cet homme qui faisait de la méditation au fond de l'eau pour atteindre le divin qui serait en lui. Et vous savez, quelques années après aussi, on a remonté à la surface un plongeur, un disciple de Jacques Mayol, qui voulait battre un record de plongée en apnée détenu par son maître. Il voulait être le premier dans le dépassement de soi Et il en est mort. Et je veux dire sans sourire que le dépassement de soi a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Mais plutôt que de se dépasser soi-même, et qui ressemble souvent à une fuite en avant dans la vie, l'homme a plutôt besoin de se réconcilier avec Dieu dans cette dimension verticale et avec les autres dans cette dimension horizontale. Et le salut à la croix représente ces deux dimensions, réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres dans sa dimension horizontale et peut-être au centre de tout, réconciliation avec moi-même aussi. Et ce salut me dépasse complètement. Jésus à la croix qui meurt pour me réconcilier avec le monde, qui ressuscite pour me donner une vie nouvelle. Et dans l'évangile, c'est dans l'épître de Pierre, il est dit que ce salut, cette rédemption est tellement extraordinaire que les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. Même les anges, ils sont émerveillés. Jésus-Christ premier en rédemption, en réconciliation, en résurrection. Et les premiers chrétiens l'avaient bien compris, qui disent dans le livre des Actes des Apôtres, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel qui nous est donné, par lequel nous devions être sauvés. » Et les réformateurs l'ont compris aussi, hein, dans la série des sola, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, le quatrième, c'est « Solus Christus ». Christ seul. Beaucoup de gens l'ont compris, et nous, l'avons-nous compris? Christ, premier en rédemption. Et puis il y a une dernière primauté. Toutes ces affirmations grandioses à la primauté de Christ dans tous les domaines cosmiques. Après tout cela, je vous propose de revenir un peu sur Terre et dans notre petit monde et se poser la question de la place de Jésus dans ma vie. S'il est premier en création, s'il est premier en réconciliation, est-ce qu'il est le premier dans ma vie? Et le point d'interrogation et de mise, c'est une question que l'on peut se poser. Et le verset 18b le disait bien, après avoir parlé de premier en création, premier en rédemption, il nous est dit « afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang ». Et j'imagine que dans les toutes choses, sans vous faire offense, il y a vous et moi, afin qu'en dans toutes les vies, il ait le premier rang, la première place. Ça semble logique d'ailleurs, s'il est premier en création, premier en rédemption, ça serait logique qu'il soit premier dans ma vie, mais ça ne l'est pas toujours. C'est toujours logique, mais il n'est pas toujours premier dans ma vie. Et là, quand on commence à parler de la première place de Jésus dans notre vie, vient tout de suite en question, à l'esprit, la question des priorités. Parce que telle est la question, qui est premier ou qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Qu'est-ce qui tient la première place? Je ne vais pas vous citer des choses, mais possible. Qu'est-ce qui a la première place dans ma vie? La montagne? La natation? Le problème avec cette question des priorités, c'est que tout est prioritaire. Et que bien souvent, ce sont des bonnes priorités. Une de mes priorités de ma vie, c'est d'être un mari qui aime sa femme. Mais je veux aussi être un père physiquement et émotionnellement présent pour mes enfants, surtout quand ils étaient un peu plus petits. Mais aussi, en tant qu'homme des années 2000, je voudrais développer des relations authentiques avec mes semblables. Je voudrais, comme priorité, être un homme de parole qui s'investisse dans son travail, que je gère mon budget comme un bon père de famille, que je témoigne de ma foi, que je pratique le bien, que je fasse attention à mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, etc. Il y a plein de priorités, tout est prioritaire, n'est-ce pas? Et il n'y a rien à dire là-dessus. Ce sont de bonnes priorités, et si vous avez la chance d'être une femme, elles seront un peu différentes, mais le problème reste le même, on jongle avec des priorités qui seraient toutes relativement bonnes quand même, ou à peu près.
Si bien qu'aujourd'hui, on parle aussi de hiérarchisation des priorités. Parce que il y en a tellement de bonnes qu'il faut garder, mais il faut les hiérarchiser. Et Christ, premier dans ma vie, ça veut certainement dire le placer tout en haut de la hiérarchie de mes priorités. C'est estimer ma relation en tant que chrétien avec lui comme étant prioritaire en termes d'investissement personnel, en temps, en énergie, en esprit, en vérité, comme dit la parole, en volonté aussi, volonté de rester en communion avec lui, donc chaque jour me battre pour qu'il reste en priorité. Et cela devrait se voir sur mon agenda, sur mon compte en banque aussi, mes finances, mes dons. Mais j'ai un problème avec ça, c'est que ça pourrait ressembler à un nouveau fardeau que la foi chrétienne mettrait sur mes épaules. Et Jésus, il dit dans Matthieu 11 qu'on peut venir vers lui se décharger de tous nos fardeaux et qu'il n'est pas venu pour charger la barque, pour mettre du poids dans la barque qu'on ne peut pas soulever. Il y a là comme un décalage, un dilemme. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans cette histoire de priorité, c'est que le fait de vivre cette relation avec Jésus comme étant première ou prioritaire dans ma vie, ce n'est pas le faire au détriment des autres bonnes priorités de ma vie. Au contraire, même le fait de vivre avec Jésus au centre de ma vie me permet de vivre les priorités secondes de ma vie d'une manière toute nouvelle, renouvelée, apaisée, tranquille. Et j'ai mis cette petite phrase, « Jésus en priorité dans ma vie me permet de mieux vivre les autres priorités de ma vie. » J'explique. Comme vous, j'ai toujours eu des problèmes quand je lis les paroles si fortes de Jésus. « Celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et plus loin, plus fort, « Celui qui préfère sa femme ou ses enfants ne peut pas être mon disciple. » Difficile. Jésus pose la question des priorités de façon très abrupte et ça pourrait nous déstabiliser. Mais un jour, un ami missionnaire m'a dit quelque chose à ce sujet et ça a été pour moi une révélation. Et il m'a dit que pour lui, aimer plus Jésus, ça lui permettait de mieux aimer sa femme. Et c'est tellement vrai. Non pas que sa femme, que c'était compliqué d'aimer sa femme sans cela, mais pour mon ami, placer sa relation avec Jésus au sommet de ses priorités lui permettait d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5. Et ça lui permettait aussi d'être présent dans sa famille en développant le fruit de l'esprit de Christ dans sa famille, la patience, la bonté, la générosité, la gentillesse. Ça lui permettait d'avoir des relations authentiques et équilibrées avec son entourage, sans crainte pour sa sécurité identitaire, parce qu'il est tranquille sur le socle de l'amour de Jésus-Christ. Pour lui, il sait ce qui vaut aux yeux de Dieu en Jésus-Christ, donc il n'a pas de souci pour avoir des relations transparentes et équilibrées avec ses semblables. Placer Christ en priorité dans sa vie lui permet de vivre les priorités secondes de sa vie de manière apaisé, tranquillisé, plein de grâce. Il pourra s'investir dans son travail sans s'y dissoudre, sachant que sa valeur est autre part que dans son travail, qu'elle est en Christ, premièrement. Et il pourra vivre son travail de manière aussi apaisée, sachant que chaque jour de travail n'est pas, il met pas sa vie ou sa valeur en péril. Il pourra s'occuper de son corps et de sa santé physique et faire de la montagne ou de la natation sans obsession, sachant que l'espérance est en Christ et pas dans son corps, qui de toute façon va perdre un petit peu de sa force. Oui, Christ au centre me permet de vivre les priorités secondes d'une manière toute nouvelle pour moi. Enfin non, pardon, pour moi c'est une bonne nouvelle. Et puis l'apôtre Paul termine par un encouragement. Et cet encouragement, il va dire, il va nous encourager à rester bien centrés sur le Christ. Et la suite du texte, il le dit, dernier verset, mais,
Alors, il y a toujours un mais, hein, dans l'histoire, mais il vous faut. Et le verbe falloir aussi, c'est un verbe un peu qui met aussi la pression. Mais vous verrez, c'est encourageant quand même. Mais il vous faut demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Si on prend l'image de la roue pour parler de la vie, une vie qui tourne comme la roue. Et quand la roue de la vie tourne, il y a des forces physiques et mécaniques qui entrent en jeu. Il y a la force centripède, par exemple, qui évacue les choses vers l'extérieur. Et malgré toutes les bonnes intentions, Christ peut être sorti ou légèrement décalé du centre de notre vie, se décentrer du centre de notre vie, et là, la roue tourne mal, les priorités secondes tentent de s'imposer, et la roue se voile, jusqu'à ne plus rouler. Il y a comme un combat entre les forces, surtout la force centripède, et parfois ces forces sont plus fortes que nous. On ne peut rien rétablir de nous-mêmes, on perd le contrôle, qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement décentré? Et on ne peut pas contrôler. Et j'aime me souvenir de cette phrase de Galates, de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et peut-être devrions-nous régulièrement, et maintenant peut-être, reprendre cette vérité-là, que si on est chrétien, c'est Christ qui vit en moi. Et le reprendre, cette idée, en tête à tête avec Jésus, en cœur à cœur, et qui nous aide à faire la part des choses dans notre vie pour donner non pas une part de notre vie à Christ, mais la totalité pour qu'il en fasse quelque chose de bien pour son royaume. Ce serait prétentieux de notre part de dire qu'il nous faut placer Christ au centre de notre vie. On ne déplace pas Christ. Il est le roi des rois. Il est au centre du monde. On ne déplace pas Christ comme dans un jeu de mécano. Tiens, on va te mettre là, on va bricoler un truc. Ce n'est pas à nous de placer Christ au centre de notre vie. Il est déjà au centre du monde. Il est premier en tout et il est premier dans nos vies également, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Mais c'est peut-être à nous de l'accueillir tout à nouveau ou certainement de le reconnaître comme celui qui règne sur nos vies, qui veut en être le centre pour que nous puissions vivre toutes nos priorités secondes en lui et pouvoir avancer dans la vie.